Alors, j'ai toujours été attiré par l'histoire rurale, et au moment de choisir un sujet de master, j'en fis part à Christian Albertan, qui était professeur d'histoire moderne à l'université de Valenciennes, et il me proposa de travailler sur la Société royale d'agriculture de Valenciennes. Il en avait en fait appris l'existence dans un ouvrage assez ancien, celui d'Émile Justin, sur les sociétés royales d'agriculture dans le royaume de France au XVIIIe siècle, ouvrage paru en 1935. Et l'auteur faisait une courte allusion à cette société du Hainaut, et son histoire restait encore à écrire. Alors, l'existence de cette société, hein, qui est chargée de promouvoir le progrès agricole par le biais de publications, d'expériences sur le terrain, par le biais de concours, l'existence de cette société fut relativement brève, hein, de 1763 à 1766. Comme souvent, bon nombre de sociétés qui sont créées au même moment, dans les années 1760, par le contrôleur général des finances, Bertin. On est au moment où l'agriculture est à la mode, hein, on parle d'agromanie, on a une croissance démographique, et les autorités veulent éviter des disettes sévères. Et nous avons donc un des membres de cette société d'agriculture de Valenciennes, qui est le subdélégué de Valenciennes, qui s'appelle De Crendal, et qui affirme, je le cite, « Il ne venait presque personne aux assemblées, et à la fin, je me retrouvais seul avec le secrétaire ». Alors, à défaut d'être une pleine réussite, cette société, alors c'est vrai, à l'époque, j'avais parlé peut-être de manière un petit peu extrême de société mornée, à défaut d'être une pleine réussite, cette institution, elle a l'avantage de dévoiler, paradoxalement, la présence de plusieurs grands seigneurs dans la province du Hainaut qui sont diversement intéressés par les moyens d'améliorer l'agriculture. Alors, il est vrai que ceux qui figurent dans les rangs de cette société ne sont pas réellement motivés par cet enjeu, parce qu'au même moment, ils ont des parts importantes dans les sociétés minières qui se développent, qui sont beaucoup plus lucratives. Mais on sait que d'autres seigneurs qui ont été écartés pour des raisons inexpliquées au moment de la formation de ce bureau d'agriculture, eh bien d'autres seigneurs sont désireux d'introduire des transformations, des changements dans l'économie rurale de cette province du nord du royaume qu'est le Hainaut. Et en juillet 1765, on a une lettre du subdélégué d'Avesnes. Alors je vous en parlerai après, mais l'Avesnois, ça fait partie du sud du Hainaut. Et cette lettre du subdélégué d'Avesnes, adressé à l'intendant du Hainaut, fait remarquer, je cite, « Messieurs Présaud d'Hugemont, seigneur de Dompierre, messieurs Badi de Dourlaire et le baron de Bande, seigneur de Rinsart, n'ont pas été très contents de la formation du bureau d'agriculture de Valenciennes, ce qu'ils ont vu avec une espèce de dédain, qu'on leur ait préféré certaines personnes qui, par leur état, ne paroissant pas propres ni aux expériences, ni à la pratique de cet art si nécessaire. » Le message agronomique semble donc trouver un écho chez plusieurs seigneurs de la province, et après avoir achevé ce mémoire de master, deux éléments m'apparaissaient importants à relever. Le premier, c'est que ces seigneurs, dans le Hainaut, ils sont propriétaires de nombreuses exploitations agricoles, moyennes, grandes, donc, et qu'ils vont louer donc des fermes que l'on appelle cens, et ils vont les louer à des fermiers que l'on va appeler censiers. Et ces exploitations agricoles font évidemment partie de leur réserve, hein, la réserve seigneuriale, et la location de ces pièces de choix de la réserve, eh bien, permet aux seigneurs de se dégager des soucis quotidiens liés à la gestion d'une exploitation agricole. Et à ce moment-là, j'entrevoyais, eh bien, le lien très étroit entre le complexe féodo-seigneurial prégnant dans la province et ses censiers, qui, dans certains terroirs, notamment dans le nord du Hainaut, avaient même tendance à monopoliser l'essentiel des terres à la bourre. Et puis, le deuxième élément sur lequel je me suis attardé au moment de terminer ce mémoire de master, c'est que ces seigneurs, si on observe leur bibliothèque qui a été relevée dans les inventaires après décès, eh bien, ils possèdent de nombreux ouvrages agronomiques. Et dès lors, comment ne pas imaginer que la lecture de tels écrits, eh bien, n'est pas une incidence sur les clauses mentionnées lors de la signature des baux avec leurs fermiers, avec leurs censiers. Et comment ne pas imaginer que de tels écrits n'aient finalement pas une incidence sur les pratiques agricoles qui sont employées au sein de leur ferme, au sein de leur sens. Parce qu'on sait très bien que le fermier ou le censier se mettant à produire plus, ben, ce sont automatiquement les rentes du seigneur qui vont avoir tendance à augmenter, que ce soit le terrage ou le champard. S'ouvrait donc la perspective d'une étude plus large sur la réalité ou non de mutations agricoles au XVIIIe siècle à l'échelle de la province. Étude d'autant plus stimulante que la région avait fait l'objet d'investigations une trentaine d'années auparavant par Michel Morineau. Et étude aussi stimulante dans le sens où elle s'inscrivait dans un débat historiographique parfois houleux et ma soutenance de thèse par la suite montrera au passage que ce débat était loin d'être clos. Alors pour faire simple, Michel Morineau a estimé qu'il n'y avait pas eu au XVIIIe siècle de révolution agricole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un décollage des rendements céréaliers au cours de cette période, et il estime qu'il n'y a eu que quelques progrès parcellaires, menus, ambigus, de la fin de la période médiévale jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, pour en arriver à cette conclusion, il s'est basé justement sur les chiffres de rendement de plusieurs champs dans deux villages à l'ombre de Valenciennes, Onin et Carouble. Et pour calculer ces rendements, il s'est basé sur des arpentages qui dataient toutefois des XIVe et XVe siècles pour connaître la superficie de ces champs et pour connaître la production, pour ensuite calculer les rendements. Eh bien, il a utilisé le produit de la dîme qui équivaut dans notre région à 13% de la production céréalière. Bon. Donc il estime qu'il n'y a pas de changement majeur au cours du XVIIIe siècle. Cette conclusion, elle a été évidemment contestée par plusieurs historiens, et notamment par Jean-Marc, en particulier dans un livre qui est paru en 2002, « Terre mouvante, les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation ». Ouvrage dans lequel Jean-Marc s'interrogeait, en se basant notamment sur de premières réflexions qui avaient été effectuées par Jean-Pierre Poussou, il s'interrogeait sur l'impossibilité, je le cite, « à l'échelle du royaume de France, de rendre compte d'une croissance de la population avec une agriculture stagnante ou, pour le mieux, en très lente progression ». Et cette conclusion, elle prenait un relief particulier pour ma province du Hainaut, parce que je savais qu'entre le début et la fin du XVIIIe siècle, on avait une croissance démographique exponentielle. Hein. Philippe Guignet parle de croissance démographique torrentielle. Effectivement, on passe grosso modo de 115 000 habitants à 289 000 habitants entre le début et la fin du XVIIIe siècle. Hein. C'est une augmentation de l'ordre de 150%. En moyenne, à l'échelle du royaume, c'est 30-40%. Bon. On le comprend, hein. Tout ceci m'incitait à poursuivre mes recherches au-delà de la seule Société royale d'agriculture de Valenciennes, et tout ceci m'incitait à prendre naturellement contact avec Jean-Marc, qui m'invita à l'université de Caen. Alors c'était à l'occasion des festivités des 10 ans d'HSR et de l'Association d'histoire des sociétés rurales, et dans le cadre, dans ce que l'on appelait encore à l'époque un DEA, il me suggéra de partir à la recherche d'éventuelles transformations agricoles, donc à l'échelle de la province du Hainaut, chez ces fameux censiers, ces moyens et grands exploitants en fermage, en s'appuyant sur leurs inventaires après décès. Alors la recherche fut assez fastidieuse parce que les inventaires étaient assez rares comparés à d'autres régions limitrophes comme la Flandre maritime qui a été étudiée par Paul Van de Waal. Quoi qu'il en soit, les premiers résultats à partir des inventaires après décès de ces censiers montraient une amélioration, une modernisation très nette de l'équipement aratoire des censiers. Alors, ferrage plus important des instruments, par exemple les herses, qui encore au début du XVIIIe siècle étaient pourvues de dents en bois et qui, passé 1750, eh bien, sont munies de dents en fer. Introduction d'un nouveau type de charrue, encore au début du XVIIIe siècle, j'observais des arrères hein, qui pénètrent mal le sol. Et à la fin du XVIIIe siècle, on pouvait relever ce que l'on appelle des brabants, hein, qui sont des charrues qui vont labourer plus profondément la terre. Et puis j'observais également la diffusion d'un équipement destiné à rationaliser la production agricole. Je pense au moulin à vanner, ce que l'on appelle le tarare. Hein. Les sources parlent de moulin à accommoder le grain. mais aussi le rouleau. Alors, ce n'est pas un instrument qui est nouveau, mais qui va se diffuser passé 1750. Hein, dans nos régions, on parle du poutroir, donc qui va permettre de mieux enterrer les semences. Et encore au début du XVIIIe siècle, eh bien, les sanciers avaient tendance à mettre à l'envers, à retourner leur herse, denture vers le ciel, et les lester de pierre. Autant d'éléments qui venaient donc contredire l'image véhiculée jusqu'ici dans l'historiographie septentrionale d'une agriculture quasi immobile au XVIIIe siècle, notamment dans l'ouvrage pionnier et très important de Georges Lefebvre, hein, vous savez, la fameuse thèse sur les paysans du Nord pendant la Révolution qui a été éditée en 1924. Autant d'éléments qui m'encourageaient à poursuivre l'analyse en élargissant à la fois le champ documentaire et le champ chronologique. Donc, élargir le champ documentaire, c'est-à-dire pas uniquement utiliser des inventaires après décès, mais aussi d'autres sources notariées, comme les baux, mais également des sources administratives, et puis également ces fameux écrits du fort privé, des livres de comptes, des registres tenus par ces fameux censiers. Et puis, élargir aussi le champ chronologique, c'est-à-dire remonter aux 20 dernières années du XVIIe siècle. Le tout de manière à mieux appréhender, mieux comprendre, mieux cerner ces changements agricoles dont je pressentais que les résultats fournis par les inventaires après décès ne représentaient en quelque sorte que la partie immergée de l'iceberg. J'ai alors entrepris en 2004 une thèse en me focalisant toujours sur les censiers parce qu'il m'apparaissait comme un point d'observation primordial, tout en ayant conscience qu'il ne représentait qu'une facette, mais néanmoins essentielle, du système socio-économique des campagnes du Hainaut. Alors certes, évidemment, ils sont minoritaires du point de vue des effectifs, mais du point de vue de la surface occupée, eh bien, dans certains terroirs, ils sont largement majoritaires. Et puis également, tout en ayant conscience que leur composition n'est pas homogène. Vous pouvez avoir des censiers qui vont cultiver 200 hectares et puis d'autres seulement une trentaine. Mais tous ont en commun d'être capables, évidemment à des degrés divers, de dégager des surplus commercialisables, de dégager des excédents négociables. Tous sont donc intégrés, là aussi à des degrés divers, dans l'économie de marché. J'ai donc choisi de faire débuter mon enquête à la fin des années 1680. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette date, elle correspondait au point d'orgue d'une longue succession de conflits militaires qui ont commencé à partir de 1635 et longue succession de conflits militaires dont je présumais l'importance des répercussions, des conséquences sur les terroirs du Hainaut. La guerre de la Ligue d'Augsbourg à partir de 1688 et puis la guerre de succession d'Espagne à partir de 1702. En fait, j'avais retenu la leçon de Gérard Civry, historien médiéviste, qui avait fait sa thèse sur les campagnes du Hainaut à la fin du Moyen-Âge. Je le cite, « On est bien obligé de constater que chaque grande période de mutation agricole correspond à une variation de la population ou à une phase bien définie de la conjoncture. » Et c'est justement au terme de la guerre de Cent Ans que Gérard Civry observait le développement de l'élevage bovin, du bocage, dans le sud du Hainaut, dans la Vénois. Et très vite, je me suis aperçu que ces dures guerres, donc au terme du règne de Louis XIV, et puis l'exceptionnelle croissance démographique qui va suivre à partir des années 1720-1730, eh bien ces deux événements, ils ont constitué pour les grands et moyens exploitants en fermage de formidables opportunités de spéculation et d'innovation. Parce que face à ces deux événements spécifiques, eh bien les censiers ont montré l'étendue de leur stratégie d'adaptation en fonction évidemment de la variété des profils agro-ruraux propres au Hainaut. Quant aux propriétaires, ceux qui sont donc propriétaires de ces fermes, de ces cens, qui louent, qui sont impliqués dans la gestion de leur domaine, qui sont attentifs évidemment à leur rentabilité, mais ils avaient tout intérêt dans ces mêmes circonstances, au moment des guerres, puis au moment de la croissance démographique, ils avaient tout intérêt à soutenir les censiers, leurs locataires, dans les modifications qu'ils entreprenaient, voire impulsaient différentes initiatives auprès d'eux. Et ils avaient donc un rôle actif stimulateurs indispensables. Et ils étaient loin d'être, et Annie-Antoine l'a montré au niveau de la seigneurie en général dans le royaume de France, ils étaient loin d'être conservateurs, oppressifs, parasitaires. Finalement, la structure socio-économique des campagnes du Hainaut, qui a été très bien décrite par Georges Lefebvre à la veille de la Révolution française en 1789, avec au nord du Hainaut, donc des régions comme l'Ostrevent, avec Bouchain, avec le sud du Tournaisis, avec Saint-Amand, mais aussi le Valenciennois et le Quercitain, des régions où les possessions des grands seigneurs, notamment des seigneurs ecclésiastiques, des abbayes, sont très nombreuses, et régions où on observe une monopolisation des terres arables par les censiers, qui peut aller parfois jusqu'aux trois quarts des terroirs, trois quarts des finages. Et puis, le sud, ce que l'on appelle donc l'Avesnois, où l'accaparement des fonciers est moins important, et justement les possessions seigneuriales sont moins importantes, donc à l'est de la Sambre, une contrée qui est vouée essentiellement à l'élevage bovin et où se développe le bocage. Eh bien, cette structure socio-économique qui a été décrite de façon magistrale par Georges Lefebvre à la veille de la Révolution, eh bien, elle semble trouver son origine en partie dans les guerres de la fin du règne de Louis XIV et l'exceptionnelle croissance démographique qui suit. Deux événements qui apparaissent comme l'élément déclencheur ou tout du moins amplificateur d'une série de transformations mises en œuvre conjointement par les censiers et leurs propriétaires, c'est-à-dire bien souvent les seigneurs, les deux étant intimement liés. Alors, concrètement, à l'échelle du Valenciennois, donc on est dans le nord de la province, si on observe les dénombrements, il y a eu des dénombrements qui ont été mis en œuvre à la fin du XVIIe siècle, les dénombrements des 32 villages de la prévôté Lecomte de Valenciennes, dénombrements effectués par le gouverneur de l'époque, hein, qui s'appelle Bardo-Bardi di Magalotti. Qu'est-ce que l'on observe entre 1686 et 1699? Eh bien, on observe que les guerres, elles ont pour conséquence un effacement de la grande majorité de ces petites exploitations avec à leur tête des personnes qu'on appelle exploitants à part de charrue, ménagers, qui sont relativement indépendants mais qui ont une situation assez précaire, qui vont cultiver 4 à 5 hectares. Et je me suis rendu compte que les passages répétés de la soldatesque, des troupes militaires, avaient eu raison de leurs maigres récoltes, de leurs quelques bestiaux, et la plupart font faillite. Alors, le témoignage de ces dénombrements, il est corroboré notamment par celui du curé de Rumgy, le fameux Alexandre Dubois, dans le nord du Hainaut, qui en 1693 nous affirme que cette année-là, 1693, déformation professionnelle, fut le tombeau de presque tous les ménagers qui n'avaient point de grains à vendre. Et ce fut l'enrichissement des gros censiers. Et en effet, plusieurs censiers, quand ils ne sont eux aussi pas touchés par les faillites, par le passage des troupes, eh bien, vont saisir cette opportunité, c'est-à-dire la faillite de ces petits exploitants à part de charrue, de ces ménagers, ils vont saisir cette opportunité pour agrandir leur exploitation. Et leurs propriétaires, les seigneurs, ils vont voir dans cette concentration foncière, eh bien, une manière de gérer plus rationnellement, plus rigoureusement leurs réserves mises en location. Et c'est aussi un moyen, parfois aussi, d'augmenter leurs réserves. Et ils vont se garantir ainsi, comme pour leurs seigneurs, pour leurs censiers, pardon, eh bien, des revenus plus assurés, ou tout du moins des revenus plus réguliers au cours d'une période qui est troublée. Et on en a la confirmation dans une note qui a été laissée par les chanoines du chapitre métropolitain de Cambrai, qui possèdent également des terres dans le nord du Hainaut, dans le Valenciennois, au tout début du XVIIIe siècle. Je vous la cite parce qu'elle est significative. « Messieurs du chapitre de Cambrai ont une ferme à Saint-Vaast-la-Vallée, bâtie à suffisance pour le labour de trois charrues, exploitée par Nicolas Fauville. » Cependant, ils n'ont dans ce lieu qu'un petit nombre de terres labourables. Après récupération de terres labourables au terroir du dit Saint-Vaast, à cause de leur situation exploitée par un certain Charles Brévet. On nous explique plus haut dans le texte que ce Charles Brévet a connu des difficultés à cause des guerres. Eh bien, ledit Fauville convient de prendre à bail les terres de ce fameux Charles Brévet, étant, je cite, « la seule occasion qu'il pourra trouver pour augmenter sa labour, au moyen duquel changement, messieurs les chanoines voiront les revenus de ce bien augmenter d'au moins un tiers et leur sens de Saint-Vaast embelli considérablement. » C'est bien Emmanuel Leroy-Ladurie qui naguère avait parlé de la seigneurie comme matrice du capitalisme agricole. Et on comprend l'augmentation du nombre de cens, de fermes à 3 et 4 charrues, c'est-à-dire grosso modo entre 120 et 160 hectares, puisqu'on estime dans le Hainaut que la capacité culturelle d'une charrue, c'est aux alentours de 30 hectares. L'intérêt pour les réunions foncières de la part des censiers, de leurs propriétaires, bien souvent des seigneurs, il est relancé après 1730. Au moment justement où le nombre d'acheteurs de blé commence à se faire plus pressant, croissance démographique oblige, et surtout aux alentours des années 1770. À cette date, on a une note du subdélégué de Valenciennes qui constate cette fois l'existence, je cite, « de grosses fermes de 5 et 6 charrues et quelquefois davantage, au détriment évidemment des autres exploitations ». Et jusqu'ici, on se souvient, les plus grosses exploitations à la fin du XVIIe siècle, elles ne font que 4 charrues maximum. Alors ce processus de concentration foncière, il est confirmé par les rôles fiscaux et il va creuser le fossé entre une minorité de censiers qui monopolise les terres, surtout dans le nord de la province, et une majorité de petits exploitants qui sont dépendants de ces mêmes censiers pour le labourage de leurs lopins de terre, mais aussi pour un complément de revenus. Alors cette situation de dépendance, elle n'est pas nouvelle, elle s'est amplifiée à la fin du XVIIe siècle, et avec la croissance démographique, à partir des années 1720-1730, elle prend une dimension plus aiguë. Cet agrandissement des cens, il a évidemment un coût pour les censiers, mais ils pourront se rattraper, si je puis dire, au moins grâce à deux éléments. Le premier, ce sont des charges salariales qui sont en baisse, en effet. L'afflux de personnes sur le marché du travail, croissance démographique oblige, cet afflux de personnes sur le marché du travail ne les oblige nullement à pratiquer des revalorisations salariales, comme l'indiquent plusieurs rapports administratifs. Je vous en cite quelques-uns. Les censiers paient au prix qu'ils jugent à propos. Les salaires des ouvriers agricoles n'augmentent point, en sorte qu'ils ont toutes les peines du monde à vivre et faire subsister leur famille. Il en découle évidemment des tensions sociales qui sont annonciatrices en partie des événements de 1789. Et la consultation des livres de compte des censiers, notamment celui de la famille Gillot, qui tient une cense à LM, on est à côté de Maubeuge, on est dans le sud du Hainaut, on est dans l'Avesnois, montre que le salaire du premier valet de charrue, du maître valet, augmente peu, pas plus de 15% au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors cette faible augmentation du salaire, c'est un élément qui explique, on y reviendra plus tard, notamment un fort turnover, une forte mobilité au sein de ces cens, une extrême mobilité de la main-d'œuvre. Et puis le deuxième élément qui peut compenser le coût de cette concentration foncière opérée par les censiers, ce sont toutes les manœuvres spéculatives qu'ils vont mettre en œuvre au sujet du commerce des grains. Alors ça peut aller du report de vente dans l'attente d'une éventuelle montée des cours, ou surtout le fait d'esquiver le marché public. Vous savez qu'il existe au moins au XVIIIe siècle une police des grains qui veille à ce qu'il y ait un approvisionnement suffisant, continu et à bon prix des villes. Et les grands exploitants, mais aussi les moyens exploitants, sont tenus de livrer leurs excédents en ville. En observant le livre de compte de Célestin Gravis, qui est censier donc à Buvigny, on est toujours dans le sud du Hainaut, dans l'Avesnois, je me suis rendu compte qu'il fait affaire directement et régulièrement avec un marchand de grains de la ville de Bavay qui vient s'approvisionner directement à la ferme, ce qui est pourtant en principe interdit par la réglementation, c'est-à-dire que les marchands doivent également, lorsqu'ils veulent acheter du grain, se rendre sur le marché. Alors c'est évidemment un moyen pour tous les deux, aussi bien pour le censier que pour le marchand, eh bien, d'éviter de payer les taxes qui sont liées à la vente sur le marché public. Cet esprit de spéculation, il est déjà présent lors des guerres de la fin du règne de Louis XIV, parce que c'est un moyen de compenser les éventuels dégâts causés par la soldatesque, et c'est aussi un moyen de sauvegarder les marges de profit qui sont menacées. Et je me suis rendu compte que ces guerres, elles obligeaient les censiers à être inventifs. En effet, pour compenser ce que l'on appelle dans la province du Hainaut les fourragements, c'est-à-dire le prélèvement en foin, en paille, par les armées, donc aussi bien dans les champs, dans les greniers, etc., il est évident, ces fourragements, ils sont donc orchestrés par la soldatesque, ils sont préjudiciables pour l'entretien des chevaux et in fine pour la culture des terres céréalières. Eh bien, je me suis rendu compte que les censiers, pour pallier ces fourragements, ils vont opter pour la culture du trèfle, parce qu'on sait que la culture du trèfle, elle est très rapide, au moins 2 récoltes par an. Je sais notamment que dans le Genevois, on peut en avoir jusqu'à 3 récoltes par an. Et on a donc un document de l'intendant du Hainaut, au lendemain de la guerre de succession d'Espagne, donc aux alentours de 1713, qui le stipule clairement. Je le cite. « Dans la province du Hainaut François, il est d'usage de semer en plaine, dans les étoles de blé, d'avoine et de gicière, des trèfles. » Alors les étoles, c'est la sole, hein, donc sole de blé ou d'avoine, donc sole de printemps, et la gicière, ce sont les jachères. Donc il est d'usage de semer en plaine, dans les sols de blé, d'avoine et de jachère, des trèfles, dont les habitants tirent un très grand secours par les récoltes abondantes qu'ils en perçoivent pour la nourriture des chevaux de labour. Que quand même il arrive des fourragements au moment de la campagne militaire, les censiers ne peuvent plus trouver de foin pour leurs chevaux, ce qui les met hors d'état de cultiver leurs terres, ce qui les aura engagés d'ensemencer des trèfles. Cette introduction de fourrage artificiel vient donc modifier l'assolement triennal, hein, première année du blé, deuxième année de l'avoine, mais aussi de l'orge de printemps, et puis un peu de légumineuse, et puis en principe la troisième année de la jachère. Ça permet aussi une amélioration des rendements, puisqu'on sent très bien que le trèfle a des racines pivotantes, que ça libère de l'azote dans la terre, et donc ça fertilise la terre pour les blés qui vont suivre. Dans la même optique, c'est-à-dire pour produire plus de céréales, alors pour profiter des hauts prix, hein, qui sont caractéristiques d'une période de guerre, hein, ou tout du moins pour essayer de conserver un niveau de production suffisant, les censiers vont mettre également en place, ce que Jean-Marc connaît dans l'Île-de-France, des déroyages. C'est-à-dire qu'ils vont forcer sur les blés, ils vont semer 2 années de suite du blé, hein, donc les fameux refroissis. Et en Hainaut, on parle de riboulis ou de déroyage. Et je m'en suis aperçu en observant donc le livre de compte de la cens de la basse-cour de l'abbaye de Saint-Amand à la fin du XVIIe siècle. La croissance démographique après 1730 et l'ouverture concomitante des marchés va inciter les censiers à poursuivre leurs différentes innovations afin de produire davantage. Alors évidemment, ils peuvent mettre en place un processus de concentration foncière. On vient de voir qu'à la fin du XVIIe siècle, les censiers du Hainaut, notamment ceux du Nord, commencent à être plus nombreux à intensifier leur culture. Et il se rapproche quelque peu du modèle flamand, c'est-à-dire une agriculture où on a fait disparaître la jachère, où on la remplace par des cultures oléagineuses, par des fourrages artificiels, etc. Et c'est vrai, ils suppriment de temps à autre la jachère, où ils vont la remplacer notamment par du trèfle, ou une nouvelle fois par des céréales. Mais ils n'instaurent pas de manière durable ce système. Alors, ce n'est pas à cause d'un blocage théorique, hein, puisqu'ils savent qu'il est possible de modifier l'assolement, mais s'ils n'instaurent pas ce système d'agriculture en continu, c'est plutôt à cause de blocage technique. Parce qu'il faut savoir que le système flamand s'épanouit d'ordinaire dans des petites exploitations. Et en raison de la disparition de la jachère, il requiert évidemment beaucoup d'engrais, beaucoup de fumier, beaucoup d'engrais d'origine animale, mais aussi humaine. Et il requiert également, ce système flamand, des sarclages très importants. C'est-à-dire, à partir du moment où on introduit certaines plantes, comme le colza, eh bien, il faut très régulièrement enlever les mauvaises herbes, ce qu'on appelle dans nos régions les cruaux, et donc opérer des sarclages, sarcler. Et cela demande évidemment une main-d'œuvre très importante. Alors, à la fin du XVIIe siècle, malgré la forte présence urbaine, hein, on a quand même un tissu urbain assez dense, l'engrais, il est difficilement mobilisable de manière continue. Pour quelle raison ? Ben justement, à cause des guerres, à cause des confiscations fréquentes des bestiaux, et on remarque bien souvent que les effectifs, à la fin du XVIIe siècle, ils sont, à cause donc des passages des troupes militaires, divisés par deux. Hein. Donc on manque d'engrais de manière durable, et il manque également à cette époque-là, aux censiers, une main-d'œuvre importante, bon marché, si possible, pour ces fameuses opérations de sarclage. Mais avec la croissance démographique, donc passé les années 1720-1730, eh bien ces blocages techniques vont à l'évidence cesser. La population augmente, donc automatiquement plus de fumier, la population augmente, donc une main-d'œuvre plus importante pour réaliser ces fameux sarclages. Et on n'est donc pas surpris d'apprendre de la part du subdélégué de Valenciennes en 1760, je cite, que la plupart des censiers qui occupent des terres près des villes les font porter tous les ans, à force de cultivation, par la facilité d'avoir des fumiers. Encore une fois, avant d'introduire toutes ces nouveautés, nos censiers doivent demander l'accord à leurs propriétaires, dont bon nombre sont des seigneurs. Ces derniers s'empressent de le faire, parce que l'augmentation des rendements céréaliers qui vont découler de ce changement culturel, de la suppression de la jachère, etc., se répercutera ensuite sur leur rente. Et on le vérifie à la lecture des clauses des baux, où il est stipulé que le censier a dorénavant le droit de ne plus respecter l'assolement triennal, etc. Bon. Alors, l'adoption de ces méthodes flamandes, donc une agriculture plus intensive, sans trêve, sans repos, et le remplacement de la jachère par des plantes oléagineuses comme le colza, le lin, le yette, mais aussi des fourrages artificiels comme le trèfle, eh bien, ça permet une augmentation non négligeable des rendements céréaliers. Et à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on atteint dans certaines exploitations des rendements de l'ordre de 40 hectolitres par hectare, alors qu'à la fin du XVIIe, les meilleurs rendements étaient aux alentours de 30 hectolitres par hectare, ce qui, j'en conviens, est déjà très important pour l'époque. Malgré cela, la province du Hainaut va rester déficitaire en grains, même lors des bonnes années. C'est-à-dire que le Hainaut est obligé régulièrement d'importer du grain des provinces voisines, c'est-à-dire l'Artois, le Cambrésis, mais aussi des régions un peu plus lointaines, comme les Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique, et encore plus lointaine, comme les Pays-Baltes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une adéquation entre la production de grains et le nombre de bouches à nourrir, hein, ce qu'Emmanuel Leroy-Ladurie appelait la croissance vraie, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre bouches à nourrir et production de grains qu'il n'y a pas de progrès agricole. Tout simplement parce qu'on a une croissance démographique qui est torrentielle, qui est trop importante, et en l'absence de la mécanisation et en l'absence de l'utilisation d'engrais chimiques, on ne peut pas évidemment subvenir aux besoins de toute la population. Et puis surtout, on a des contrées dans le Hainaut, notamment le sud, l'Avesnois, où les terres ne se prêtent pas à la culture céréalière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au XVIIIe siècle, dans cette dernière région, dans l'Avesnois, les censiers ne vont pas renoncer pour autant à réaliser de bonnes affaires. En lien avec l'ouverture des marchés, ils vont donc justement miser sur un renforcement de l'élevage bovin et ses produits dérivés par le biais de ce que vous connaissez très bien ici, le couchage en herbe, c'est-à-dire qu'ils vont coucher en herbe plusieurs de leurs champs céréaliers. Et en 1760, on a le subdélégué d'Avesnes qui rapporte, je cite, « Les vaches ont été considérablement multipliées et par suite nécessaire, beaucoup de terres labourables, peu propres à produire du grain, ont été accourtillées, c'est-à-dire enclose et formée en pâture à l'usage des bestiaux. Alors un tel processus, il est renforcé par l'adoption de l'édit de clôture en mai 1771, c'est-à-dire que bon nombre de prairies sont désormais interdites au droit de parcours, à la vaine pâture, ce qui était pourtant un moyen de survie pour de petits exploitants qui possédaient un petit élevage d'une ou deux vaches, mais qui n'avaient pas de terre à eux. Alors évidemment, cette nouvelle réglementation, elle va mettre à mal la stabilité sociale des campagnes du Hainaut, et on retrouve donc des dénonciations dans les cahiers de doléances peu de temps après, au printemps 1789. Et on a cet écart entre les censiers et le reste de la société rurale qui se renforce à la fin du XVIIIe siècle. Et ça devient problématique dans l'Avesnois parce qu'on est dans une région justement d'élevage où les possibilités d'emploi sont moins nombreuses, hein, puisque l'élevage demande moins de main-d'œuvre, à la différence de la céréaliculture dans le nord, où à partir du moment où on développe les méthodes flamandes, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et la situation devient moins critique. Et c'est pour cette raison que Philippe Guigné, dans l'Avesnois, constate une certaine forme de malthusianisme. Cette thèse, elle m'a permis finalement de démontrer l'inventivité, la souplesse de ces moyens et grands exploitants en fermage, ces censiers, leur inventivité, leur souplesse lorsqu'une conjoncture particulière se présente afin de préserver leurs marges bénéficiaires tout en essayant de les augmenter si possible. Malgré cela, à mon avis, bien des aspects relatifs aux dynamiques et aux stratégies de fonctionnement de la grande exploitation agricole au XVIIIe siècle, bien des aspects restaient dans l'ombre, ce qui m'a engagé à poursuivre mes recherches sur cette thématique et en élargissant le champ géographique, pas uniquement le Hainaut, mais l'ensemble des provinces du nord de la France, mais aussi la Belgique, mais également la Suisse romande. On a vu qu'au XVIIIe siècle, la grande exploitation, du fait de sa capacité à dégager de très importants surplus négociables, et donc sa capacité à répondre aux sollicitations, mais aussi aux mutations des marchés, la grande exploitation, elle est plus que jamais un des rouages essentiels de l'approvisionnement des villes, mais aussi d'une partie des campagnes de l'Europe de l'Ouest. Et elle est donc amenée à connaître un certain nombre de transformations, de changements, de mutations dans son fonctionnement. Et pour appréhender au mieux tous ces changements, j'ai choisi de me focaliser sur les écrits laissés par ceux qui sont à la tête de ces exploitations et plus rarement aussi les écrits de ceux qui y travaillent. Autant de témoignages directs que j'appelle les écrits paysans et qui m'apparaissent, mais on pourra en discuter, comme un prisme peut-être moins déformant que les autres sources classiques de l'histoire rurale. C'est une réflexion que j'avais déjà entreprise au moment de ma thèse. Alors, je m'explique. S'agissant des sources administratives, on sait très bien que le grand exploitant interrogé dans le cadre d'enquêtes menées par les agents de l'État, par le subdélégué, le grand exploitant, il n'est pas toujours prompt à délivrer entièrement la réalité de son domaine. Ses performances, son positionnement sur le marché, les démarches qu'il entreprend dans ce sens, tout simplement parce qu'il connaît le but final de ses enquêtes, à savoir évaluer le plus souvent la richesse des terroirs pour mieux y prélever ensuite l'impôt. Alors Georges Frêche l'a montré pour la région toulousaine, Christian Pfister l'a montré pour la région de Berne en Suisse, mais également Joseph Ruet pour la région liégeoise. J'ai un exemple concret pour la province du Hainaut. Lorsqu'on observe les enquêtes administratives au sujet de l'élevage ovin dans le Hainaut au XVIIIe siècle, à chaque fois, les censiers se plaignent du fait que cet élevage n'est absolument pas rentable, que cela coûte cher, que le salaire du berger est trop onéreux, etc. Et donc je me demandais, mais à quoi sert finalement d'entretenir des moutons, si ce n'est évidemment de fumer les chaumes et la jachère. Et en observant de près le livre de compte de Louis Gravis, au XVIIIe siècle, ben je me rends compte qu'il a un intérêt, évidemment, à produire des moutons, que cet élevage de moutons rapporte, ne serait-ce que pour la production de laine. Alors évidemment, ce sont des moutons dont la qualité n'est pas extra, hein, c'est pas, ce ne sont pas des moutons mérinos, mais il y a au même moment, dans la région de Maubeuge, le développement d'une manufacture de casés, qui sont en fait des draps de laine d'une qualité assez grossière, assez moyenne, mais qui, compte tenu encore une fois de la croissance démographique, sont de plus en plus demandés. Et donc les censiers ont tout intérêt à avoir un élevage de moutons, et en observant leur comptabilité, ben, je me rends compte que cet élevage, évidemment, il rapporte. Alors, en ce qui concerne les sources notariées, alors il y en a deux qui sont principalement utilisées par les historiens ruralistes, ce sont les inventaires après décès et les baux. Alors, les inventaires après décès nous renvoient évidemment une image assez valable de l'exploitation à un moment donné, hein, c'est-à-dire au moment du décès de celui qui est à la tête de cette exploitation. Donc, le champ chronologique, il est évidemment un petit peu restreint. Il y a toujours évidemment des possibilités de fraude. Et s'agissant des baux, on sait très bien qu'ils sont intéressants pour apporter des informations qui sont relatives à la rotation des cultures. Alors, lorsqu'il s'agit de la semence triennale, les baux nous présentent très explicitement première sol du blé, etc., sur telle surface, deuxième sol, les cultures de printemps, etc., la troisième sol qui est laissée en jachère, etc. Mais à partir du moment où on rentre dans une agriculture plus intensive, à partir du moment où on supprime cette jachère, en tout cas pour le hainaut, eh bien les baux deviennent plus laconiques. On nous précise que le censier a la liberté de ne pas respecter la semence triennale, qu'il n'est plus obligé de laisser une année sur trois les terres en jachère, etc. Mais je suis dans la capacité à ce moment-là de déterminer l'ordre, la composition des différentes cultures qui vont se succéder désormais. Je sais que je ne suis plus face à un assolement triennal, je sais qu'il n'y a quasiment plus de jachère, mais je ne connais pas exactement l'assolement. Et puis, l'autre source qui est classiquement utilisée pour connaître de manière générale l'attitude des grands exploitants, c'est le témoignage, dans des livres de raison, dans des livres journaux, le témoignage de personnes extérieures au monde paysan. À cet égard, Michel Morineau rappelait, je le cite, « Le plus souvent, nous avons des paysans une vision qui vient en dehors d'eux, pour ne pas dire au-dessus d'eux, c'est-à-dire des témoins appartenant à d'autres milieux, nobles, ecclésiastiques, gens de la ville, avec une pointe d'incompréhension comme devant de grands enfants ou des êtres inférieurs ou des individus dangereux. » Et il est vrai que les grands exploitants qui sont dépeints, décrits par des personnes extérieures à leur catégorie socio-économique, le sont souvent dans des termes dépréciatifs, pour deux raisons. La première, c'est Jean-Nicolas qui l'a montré, c'est que l'argent et le profit sont vite diabolisés à cette époque-là. Il faut y voir sans doute l'impact de la morale catholique, hein, qui loue la sainte pauvreté. Et la vision la plus commune du riche fermier, c'est celui qui cherche à amasser du numéraire, dont la quantité dépasserait de loin ses besoins fondamentaux. Il cherche à amasser du numéraire au moyen de stratégies, notamment en faisant de la rétention de grains pour accroître ou créer une cherté, etc. Autant de tactiques qui sont répréhensibles aux yeux de la population. Et puis la seconde raison qui explique que le comportement des grands exploitants est souvent décrit dans des termes souvent dépréciatifs tient au fait que les descriptions du comportement donc, de ces grands exploitants que l'on possède, elles interviennent la plupart du temps dans un contexte de tension alimentaire, dans un contexte de disette. Ces grands exploitants sont justement les principaux producteurs de grains et ils sont de facto perçus en temps de disette comme étant bien souvent en étant à l'origine et par conséquent comme étant en proie à la cupidité. Dès lors, de telles descriptions qu'on va aussi parfois retrouver dans la documentation judiciaire, est-ce qu'elles ne sont pas susceptibles, je pose la question, de fausser la restitution du réel comportement de ceux qui sont à la tête des grands domaines agricoles ? Donc on comprendra pourquoi je me suis focalisé depuis quelque temps sur les écrits paysans. Alors ce choix, il peut être discutable, on y reviendra. Et je me suis donc attardé à chaque fois sur une exploitation donnée. Alors ces écrits, ils peuvent évidemment prendre la forme d'imprimés, des mémoires, des articles qu'on va retrouver dans les publications des sociétés d'agriculture au XVIIIe, mais aussi au début du XIXe siècle. Et puis ils prennent évidemment, ces écrits paysans, la forme de manuscrits, des registres, des livres de comptes, des mémorandas, des mémoires, etc. Ce que l'on appelle les fameux écrits du fort privé. Parce qu'on sait très bien que tous les grands exploitants agricoles ont éprouvé le besoin d'écrire. Il suffit d'observer leurs inventaires après décès et de relever la présence courante dans la rubrique titre et papier d'au moins un registre. Parce que la gestion rationnelle d'un grand domaine, bah, ça impose au moins la tenue d'un livre de compte, hein, qui permet d'avoir une image rapide, précise, correcte de la situation financière de l'entreprise. Et la deuxième motivation qui conduit à l'écriture de divers registres par nos grands exploitants agricoles, elle réside dans leur volonté de faciliter la reprise et le maintien du niveau de production par leur héritier au moment du décès. Héritier qui, en principe, poursuivra l'activité scripturale. Et pour paraphraser Sylvie Mouisset, on sait finalement que cette prise d'écriture chez le grand exploitant agricole, bah, elle s'apparente à une écriture d'obligation, d'accumulation, mais aussi à un acte de transmission. Je ne suis évidemment pas le premier à utiliser ce type de document. Je pense à Madeleine Foisil avec le Sire de Gouberville. Je pense évidemment à Jean-Marc, à Jean Vassor, à Dominique Zumkeller, à Bernard Garnier, puis plus récemment Pierre Brunet et Bernard Bodinier. Mais dans mon enquête actuelle, il m'importe d'utiliser des écrits paysans qui soient denses et précis, parce qu'on connaît très bien le caractère lacunaire, fragmentaire de ce type d'écrit, à la fois sur le plan chronologique et aussi sur le plan du contenu, parce qu'on sait très bien que certains aspects de l'exploitation ne font pas l'objet d'annotations régulières, voire même pas du tout. Et ça ne nous permet pas d'entreprendre des analyses sur le long terme. Pourtant, on sait que les grands exploitants, à un moment certain, ont pu apporter des informations en quantité et sur la longue durée, et pas uniquement sur la forme d'un simple livre de raison. Hein. Ils pouvaient se faire diaristes. Il existe chez certains d'entre eux un caractère mémorialiste plus accentué. Cela m'a été confirmé par la découverte en août 2006 du journal d'Avuy, tenu donc par Jacques-André Mallet, donc, qui est un grand exploitant dans les environs de Genève. Hein, le village d'Avuy, c'est à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Genève. Et il a tenu entre 1773 et 1789, au jour le jour, un journal, donc son journal d'Avuy. Alors, un exemple pour vous montrer l'importance de manier dans la mesure du possible des écrits dans la longue durée. Je travaille depuis plusieurs mois sur une série de livres, sur une série de livres de comptes, une trentaine au total, qui sont en lien avec une grande exploitation à côté de Genève. On est à 5 km de Genève. Cette exploitation s'appelle le domaine du reposoir, situé dans un village qui s'appelle Prégny. Et ceux qui ont tenu cette exploitation, donc la famille Piquetet, eh bien, pendant deux générations, sans discontinuer, eh bien, ils ont tenu toute une série de livres de raisons. Alors, on est dans une région, le Genevois, où domine la polyculture, c'est-à-dire la céréaliculture, l'élevage bovin et la viticulture. Alors, dans ces écrits, Jacques Piquetet explique clairement qu'à partir de la fin des années 1740, il va privilégier une production viticole de garde, tout simplement parce que la population de Genève est désormais désireuse d'un vin plus fin, plus sucré, plus alcoolisé. Donc il s'adapte à la demande. Alors à ce moment-là, il va repeupler sa vigne avec du chasselas, donc c'est un cépage en provenance du pays de Vaud, hein, qui est réputé pour offrir d'une part de meilleurs rendements et d'autre part surtout une meilleure qualité. Et il nous précise que ces nouvelles plantations, elles requièrent beaucoup de fumier. Passé 1770, c'est le fils de Jacques, Isaac, qui va reprendre l'exploitation et il nous indique très clairement dans ses écrits qu'il ne cherche plus à augmenter la production viticole, notamment par des apports de fumier, parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque de faire baisser la qualité. Et à ce moment-là, ses besoins en fumier sont moins importants et ses besoins en paille sont également moins importants. Ce qui va autoriser Isaac, a diminué la superficie de cette aire céréalière. Alors on pourrait en déduire qu'il va y avoir un manque à gagner. Absolument pas, parce que la baisse de la superficie de cette aire céréalière, elle est compensée par la disparition de la jachère et par l'introduction de nouvelles techniques. On a donc au final une céréaliculture qui est plus rentable, même si c'est la viticulture qui représente de loin l'essentiel de ces revenus. Et ça me permet de montrer que dans des régions de polyculture, comme le Genevois, la viticulture et la céréaliculture, elles sont indissociables au sein des grandes exploitations. Et lorsqu'on cherche à mesurer et à comprendre ce fameux progrès agricole au XVIIIe siècle, eh bien on ne peut pas le faire en observant de manière séparée, en cloisonnant l'élevage, la viticulture et la céréaliculture. On est obligé de regarder ces trois composantes puisqu'elles sont intrinsèquement liées. Et pour en revenir à l'importance de la longue durée, eh bien, la consultation des registres des Pictets, limitée aux années 1770, eh bien, aurait occulté toutes les transformations entreprises par le père d'Isaac dès la fin des années 1740. On le remarque, ce type de document, ces écrits paysans, me permet aujourd'hui de répondre à certaines interrogations ou à apporter un éclairage nouveau sur certains aspects qui sont relatifs donc aux dynamiques et aux stratégies de fonctionnement de la grande exploitation agricole au XVIIIe siècle. Alors, quelques exemples pour conclure. Comment un grand fermier opère-t-il concrètement une réorientation productive ? Quels en sont les mécanismes ? Dans quelles conditions ? On se doute que le passage d'un assolement triennal à un assolement sur 6 ans, sur 9 ans, ne peut que se faire progressivement. Eh bien, en étudiant les écrits de Jean-Baptiste Mondé, qui est fermier dans la plaine de Fleurus, on est dans le Pays-Bas, dans les Pays-Bas autrichiens, eh bien, montre que lorsqu'il va passer d'une rotation classique, triennale, à un assolement sur 6 ans, eh bien, c'est un processus relativement long, hein, qui met 8 années au total. L'aménagement est très long, hein, compte tenu de ce qu'il implique, la redistribution, le redécoupage des parcelles selon les sols, selon les nouvelles productions et aussi selon la qualité des terres, parce que parfois au sein d'une même exploitation, eh bien, la qualité des terres peut varier. Autre question à laquelle j'ai essayé de répondre, ben, quelles sont justement les conséquences sur la marche quotidienne d'une exploitation qui met justement en place une agriculture plus intensive ? En analysant la correspondance d'un couple de fermiers dans la région de Lille, donc à Lincel, donc Pierre-François Lepoutre et Angélique Delput, au moment de la Révolution française, donc une correspondance qui a été éditée par Jean-Pierre Gessen et Edna Lemay, je me suis rendu compte que cette agriculture sans jachère, elle ne laisse désormais guère de temps dans le calendrier cultural, hein, puisqu'il y a différentes opérations culturales qui nécessitent une main-d'œuvre qui doit être constamment disponible, qui doit s'appliquer très rapidement aux différents travaux, en bonne coordination avec le reste de l'équipe, etc. Le souci, c'est que cette main-d'œuvre, et on le sait très bien, Jean-Marc l'a montré pour différentes raisons, elle est en général très mobile, très instable. Il y a un fort turnover. Eh bien, dans des régions où l'on est face à une agriculture très intensive, bah, le problème devient évidemment plus aigu, comme l'explique Pierre-François Lepoutre à son épouse dans une de ses lettres. Je vous la cite. « Vous me dites que vous êtes obligé de vous procurer un nouveau valet de charrue. Je ne doute pas que vous ne ressentez un peu de chagrin, quand il y a du changement dans l'équipage, il ne peut pas être autrement. » Alors ce grand exploitant, il produit à l'évidence pour lui, pour son personnel, pour sa famille, pour l'extérieur. Mais que sait-on au juste pour une production donnée, de la part exacte réservée à l'autoconsommation, de la part exacte réservée à la vente? On sait très bien que certaines productions peuvent être réservées en priorité à la vente ou réservées en priorité à l'autoconsommation. Eh bien, l'étude des livres de compte de Jacques-André Mallet, hein, ce grand exploitant près de Genève, eh bien, j'ai pu reconstituer ces différents aspects de manière très précise et montrer clairement que le choix d'un grand exploitant en matière de production, de consommation et de commercialisation, eh bien, était intimement lié. Et puis, on trouve parfois des chiffres dans les inventaires après décès, dans les livres de compte, des chiffres concernant la production qui est vendue ou qui reste dans les greniers, etc. Donc, qui permet finalement de quantifier, de mesurer dans le temps les reports de vente que certains grands exploitants mettent en œuvre. Jean-Marc l'a très bien montré pour les fermes de l'Île-de-France. J'ai par la suite évidemment montré également ce type de report de vente chez les grands exploitants dans la région de Genève. Et je me suis aperçu que Jacques-André Mallet décide chaque fois de ne pas porter sur le marché une certaine quantité de froment. C'est une stratégie de rétention pendant toute l'année, dans l'attente d'une éventuelle hausse des prix l'année suivante. Et on entrevoit au passage toute la difficulté qui consiste pour le cultivateur à évaluer le niveau de stockage indispensable pour la bonne marche de l'entreprise l'année suivante. Mais est-ce qu'on est bien sûr est-ce qu'on est sûr que ces manœuvres relèvent bien à chaque fois d'une spéculation qui procéderait uniquement d'une volonté de sans limite de s'enrichir? Est-ce qu'on est bien sûr que toutes ces manœuvres relèvent d'une logique capitaliste, comme on l'avance fréquemment et comme je l'ai avancé, hein? Dans l'idéal, il faudrait que tous ces chiffres que l'on retrouve dans les livres de compte, mais aussi dans certains inventaires après décès, il faudrait que dans l'idéal, eh bien, ces chiffres soient accompagnés de commentaires de la part de l'exploitant agricole, scribe, commentaire qui éviterait alors à l'historien, sur certains aspects, eh bien, toute erreur d'analyse, donc il n'est jamais à l'abri d'habitude. Hein. Et c'est Annie Antoine qui rappelle à cet égard, je la cite, que pour comprendre une comptabilité agricole ancienne, l'historien doit y mettre un peu de sa logique. Or, il n'est pas sûr du tout que cette logique soit celle de l'agriculteur du XVIIIe siècle. Et on sait effectivement avec Roger Chartier hein, qu'il existe, pour le paraphraser, une discontinuité fondamentale qui sépare ordinairement l'outillage intellectuel, affectif, psychique de l'historien et celui de l'homme et celui des hommes et des femmes de l'époque moderne dont il écrit l'histoire. Et donc, justement, en observant la correspondance des Lepoutre, je me suis rendu compte que ces reports de vente ne sont pas toujours liés à de la spéculation, mais tout simplement la conséquence de contraintes techniques qui sont inhérentes à la tenue d'une grande exploitation dans le cadre d'une agriculture intensive. Les différents travaux agricoles se succèdent et par conséquent, on ne peut pas consacrer l'essentiel de son temps à battre l'essentiel du grain. On est obligé d'attendre parce qu'il y a d'autres travaux qui doivent se faire. Et puis, autre contrainte technique, tous les grains ne peuvent pas être battus d'une seule traite parce qu'on ne pourra pas aller les vendre également d'une seule traite sur le marché. On sait très bien qu'une fois que les grains sont battus, ils se conservent moins bien. Alors c'est pour cette raison qu'ils les conservent sous forme de gerbes et sous forme de meules, soit dans les greniers, soit dans les champs. Et lorsque la spéculation elle est bien attestée, il s'avère qu'elle est parfois rendue tout simplement nécessaire, hein, parce qu'il faut essayer de vendre le grain le plus cher possible, parce que la grande exploitation, elle requiert des besoins en argent très importants. Et puis parfois, cette spéculation, lorsqu'elle est bien attestée, elle est limitée par un respect de l'économie morale et a fortiori par une volonté de préserver le capital social de ces mêmes grands exploitants agricoles, capital social, c'est-à-dire l'ensemble de leurs relations à l'échelle du village et au-delà. Alors pour conclure, la question de la validité de notre documentation, elle se pose de manière évidente et elle nous renvoie au débat entre les partisans de la micro-histoire et les partisans de la macro-histoire. Un débat qui est apparu dans les années 1980 avec des historiens italiens comme Giovanni Levi, comme Carlo Ginzburg à propos de phénomènes religieux. Ce débat appliqué à notre champ d'étude, il revient à se demander, grosso modo, en quoi les écrits d'un seul grand exploitant agricole peuvent-ils être représentatifs de l'ensemble de la catégorie socio-économique dans laquelle ce grand exploitant s'insère. Et ça revient aussi à nous demander en quoi ces écrits peuvent-ils nous livrer une image révélatrice, fiable, du grand domaine agricole au XVIIIe siècle. Alors, si la réponse, encore aujourd'hui, n'est pas formelle, je pense qu'on peut formuler deux réflexions. La première, elle est en rapport avec la validité des sources, je dirais classiques, mises à contribution d'ordinaire par les historiens ruralistes, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis la deuxième réflexion, elle tient au fait qu'un grand exploitant, il n'est pas toujours individuel, n'est pas forcément individuel dans tout ce qu'il entreprend au sein de son domaine agricole et qu'il va retracer ensuite dans ses écrits. Et on rejoint ici le concept cher à Carlo Ginzburg de l'exceptionnel normal. Concrètement, des écrits paysans que l'on peut qualifier d'exceptionnels en raison de la richesse d'informations qu'ils renferment ou en raison de leur nature même peuvent présenter des faits qui ne sont normalement pas enregistrés dans les sources habituelles. Prenez justement la correspondance des Le Poutre, elle peut apparaître comme une anomalie documentaire. Hein. Il est rare qu'un couple de fermiers se mette à correspondre entre eux. Bon, la situation vient du fait que le mari devient député de la Constituante, donc il est retenu à Versailles, et son épouse se retrouve seule à gérer la ferme dans le nord de la France, du côté de Lille. D'ordinaire, on va plutôt trouver des relations épistolaires entre un grand exploitant et ses différents partenaires commerciaux. C'est le cas de David Roulépi, qui est un paysan vigneron à Peuzeux. On est dans la principauté de Neuchâtel, en Suisse, au début du XIXe siècle. Et c'est Fiona Fleischner qui a donc étudié donc, le plus de 950 lettres échangées entre ce paysan vigneron et ses différents partenaires commerciaux. Donc pour en revenir à la correspondance des Le Poutre, donc, ça peut apparaître comme une anomalie documentaire, une situation insolite, mais, donc document exceptionnel, mais qui permet de mettre à jour des comportements normaux, à l'image des rapports qu'entretiennent les grands exploitants avec leur main-d'œuvre, à l'image aussi du regard qu'ils portent sur les fluctuations du marché céréalier, etc. Mais que les sources traditionnelles ne relèvent pas. Hein. C'est Jean-Marc et Gilles Postelvinet hein, qui ont dit que parfois les grands exploitants ne cherchent pas à noter ce qui va de soi. Je vous remercie.